Bon, allez, trèfle de plaisanterie. Alors, on a vu la semaine dernière que fort de l'Agmara d'Afioud, où Bruria, elle a enseigné à son mari que les Rechaïm, il faut prier pour que les Rechaïm fassent Teshuva et non qu'ils disparaissent. Donc il relie la bénédiction du Shmoné Esré en disant que les Rechaïm Tovedou, ils disparaissent, c'est pas qu'ils disparaissent de la terre,
mais que la Rishout,
l'impiété disparaisse. Que l'impiété disparaisse. Bon, alors, Rabbi Issaï, où est-ce qu'on était la page
On était au milieu d'Aristote, là.
Ah oui, Aristote, machin, minute.
Que quand on veut exposer une thèse, il faut d'abord exposer la thèse contraire pour mieux la démonter. J'en étais là, mais...
Voilà. On avait même avancé.
Voilà, on était là-dedans,
alors,
mais...
On est à la page... Koufnoun, tu as un texte, Khabibi ?
Non, c'est pas grave, sinon il va...
Je suis avec moi. Pour une fois, j'ai pas la grippe. Donc tu sois là, machin. On y va. Vadvari, ma chère Kata, Vem, Binyan, Adad, Gamken.
Nous, on est en bas de la deuxième colonne. Pardon.
Koufnoun. Voilà. Et ce qu'il écrit aussi son sujet de la religion aussi. Il causait katav shinraou shisne dvarav rakarvam et talit akiruf. C'est-à-dire que les opinions antagoniques, il ne faut pas haïr les opinions antagoniques, mais les approcher de soi. Donc c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière, que je ne sais pas si vous êtes sensible au charme aristotélicien. Ouais.
C'est vrai que si on n'a pas lu Aristote...
Ouais, t'écoutes. Tu es dans une écoute, en vérité. Ouais, tu écoutes, quoi. Voilà. D'accord ? Voilà. Donc, il dit... Il causait katav shinraou shisne dvarav gervam et talit akiruv. C'est-à-dire que lorsque tu veux analyser un sujet, il faut avoir de l'affection pour la vie opposée. Et se rapprocher et approcher la vie opposée pour pouvoir rentrer là-dedans. Bien au contraire, si ta thèse a un poids, elle ne sera que plus grandie si tu as une empathie avec la vie opposée. Il me causait, voilà. Mais katav sham, chez mieux là, c'est car que si tu ne fais pas ainsi, veloi kabel vidibra cholkim ala be'ava. Mais que tu n'acceptes pas les avis opposés avec amour. Rakidachem, seulement tu les repousses. Davarze bevadai khutshad varav. Cela ne peut être que la preuve de la faiblesse de sa pensée. Shomrim ale alav chez les kadochotam. C'est pour ça que tu repousses la contradiction. Parce qu'en vérité, tu es faible. Si en vérité, ce que toi, tu défends un poids, eh bien, accepte l'opposition. À vaincre sans péril, triomphe sans gloire. Donc, tout ça pour ça.
Ouais, je sais pas, il est parti dans un... Ouais, on va voir ce qu'il veut. Hein.
C'est Aristote, là.
Qui a chalash et lo kiyum imamit aged alam. Car le faible n'a pas de poids par rapport à celui qui s'oppose. Le Karen Raoul la rik choum d'avoir mis la gueule à dato la vataha qui ravaillait d'IA. C'est pourquoi ce n'est pas convenable de repousser quoi que ce soit qui s'oppose à ta pensée par l'amour de l'analyse et de la connaissance. Au Bepra Toto chez l'Okivel et Kanter à Klagid à Emouna Cherito. Raison de plus, particulièrement celui dont l'intention n'est pas polémique. Seulement dire ça, Emouna, Afimadvarim en Neged Emounato, même si ça va contre ta foi et ta tradition, Elomar Allah Valtedaber, Petistom Livre Picha, ne dis pas tais-toi. Shemkel Loye Biru Radat, sinon il n'y a pas d'éclaircissement de ta tradition extraordinaire. Ça, c'est pas d'Aristote, hein, c'est de son cru.
Mais on était resté sur la question, mais alors, ça serait valable même sur les...
Oui, alors bon, ça a été... C'est monsieur qui a posé la question. Oui, monsieur, rappelez-moi votre nom. Quai de la Loire. Oui. Est-ce que tous les sujets peuvent être abordés? Ok,
ah oui.
Ok, n'est-ce pas?
Bien. C'est une question.
Vadraba davar kemose omrim tedaber kechol chelsecha. Bien au contraire, par rapport à ça, on dit « Parle tout ce que tu as pensé, que la chair à ta rotse, rafes l'omar. Parle, dis-moi tes arguments. » Velo tomar im ayaif shalil daber haitim daber yoter. C'est-à-dire, ne donne pas la possibilité à la personne de dire « Il ne m'a pas donné la possibilité d'exprimer tout ce que j'avais à dire. » Il ne faut pas qu'on soit dans cette situation. Il faut qu'on soit dans la situation que la personne soit rassérénée et elle a pu dire tout ce qu'elle avait à dire. Kimo sezé chez un pipip, chez nous d'Aberzé ou Moré al-Khoucha d'Adam Kimo Shabanou. Si tu ne laisses pas parler tes contradicteurs, en vérité, ce serait l'expression de la faiblesse de ta pensée, de ta tradition. Le cas d'Aberzé est ferme à Shiroshim, Ksad ben Adam. Ce qui est le contraire de ce que pensent certaines personnes. Regardez, ici, maintenant, puisque monsieur ne s'est pas exprimé, mais je ressens le frémissement de son cœur, le frémissement de son cœur, qui est en train de dire pourquoi termine-t-il le livre avec ça?
Qu'est-ce qu'il veut, là?
Voilà, qu'est-ce qu'il veut? Alors, sûrement qu'ici, c'est toute une... Pourquoi ce livre, en vérité, le Beragola, est un livre polémique? On verra Bezrat Hashem, le Gvorot Hashem. C'est pas un livre dont la base est polémique. Il y a toujours du polémique, etc. chez le Maharal.
Mais en disant ça, j'ai l'impression aussi qu'il diminue la force de sa position. Parce qu'en disant qu'on doit donner beaucoup de crédit aux opinions adverses, qu'on doit leur donner force, qu'on ne doit pas les négliger, alors on peut se dire, à la fin de la lecture, dis-moi, alors, tout ce que
regarde,
j'ai lu avant,
regarde, non,
c'était,
regarde,
il était où
non,
placé
regarde, non, justement, puisqu'on a vu, Emmanuel me dit qu'on a commencé ensemble il y a 3 ans et demi, je ne me souvenais plus.
Juste après Pessah 2013.
D'accord, il y a 3 ans et demi, on a commencé ensemble. En vérité, ce livre, qui est un livre éminemment polémique, il rapporte les arguments des contradicteurs du Talmud et des Haggadot du Talmud. Et les gens, on pourrait dire, éclairés de son époque, qui étaient éduqués au mode occidental et qui abordaient avec des yeux d'occidentaux, nonobstant le fait qu'ils soient de confession judaïque. Ouais. Donc ils abordaient avec des lunettes Nina Ricci la tradition ou Dolce & Gabbana, voilà.
C'est-à-dire le simple fait qu'il ait fait ce livre, ça montre qu'il tient compte des arguments. Il aurait pu dire
non,
c'est gorniche.
Vérité, non, mais ça c'est, je crois.
Il n'a pas dit ça.
Voilà, parce que en général, oui, c'est vous vous sentez concerné là.
Non, je regardais la marque.
D'accord. Donc tout ça pour dire qu'en vérité, je crois que ce qu'il est en train de dire, c'est que ne crois pas que mon livre soit un livre dont le seul objet est la polémique. C'est qu'en vérité, tu dois te confronter à l'adversaire pour pouvoir construire et intérioriser ta tradition. Et que parce que quand tu entends, c'est vrai, je vous dis sincèrement, que moi, lorsque je suis confronté à, par exemple, des rabbins libéraux ou conservatifs, j'avoue que j'ai pas envie de discuter. J'ai pas envie de discuter, parce que c'est... Comment ? Oui, non, mais... Or, lui, il a l'air de dire... Il a l'air de dire qu'il faut aller au charbon. Il a l'air de dire qu'il faut aller au charbon, parce qu'aller au charbon, tu construis ta tradition.
Il parle de ramener les arguments pour les déconstruire.
Oui, il dit pas.
Discuter.
Bon, il parle de, il pas de discuter avec la personne.
Oui, mais le livre, il a écrit contre.
D'accord, mais c'est pas.
On n'est pas en train de discuter dans un débat.
C'est pas construit,
au centre communautaire.
Voilà.
Mais malgré tout, il ne faut pas dire, voilà, ce sont des rechaïm, on n'écoute pas leurs arguments. Non ! Apporte leurs arguments, apporte-les, et c'est en discutant avec leurs arguments qu'on va construire notre tradition. Ça, je crois que c'est ça, c'est très, là maintenant, il ouvre. Il faut pas dire, voilà, tout ça, c'est pas traditionnel, laissez tomber, ça nous concerne pas. Non ! Très très bien, ça nous concerne. Abordons-les. Et en les abordant, on va construire notre tradition. Au contraire. Oui, monsieur.
Modestement.
On va dire, Moré.
Modestement. Dans mon travail. Quand tu as par exemple, des fois dans des plaidoiries, tu as des échanges, des discussions avec des arguments. Des arguments, de, par exemple, ton client te dit ça, la partie adverse te dit autre chose. Par exemple, des éléments techniques, par exemple, vis-à-vis d'une banque, un dossier actuel, entre un promoteur et les banques. Donc, sur la validité d'une promesse, est-ce qu'elle a été, est-ce qu'elle est valable, pas valable, est-ce qu'elle répond aux conditions, etc. Tu es obligé, toi, tu pars du principe qu'elle n'est pas valable. Elle n'est pas valable. En face, tu reçois des arguments contraires, comme quoi elle est valable, avec la jurisprudence, etc. Donc, tu es obligé d'aller voir ce qu'il te dit. Tu es obligé d'aller voir. Et tu vas, à partir de là, contrecarrer ce qu'ils te disent et ce qu'ils te donnent comme argument, en trouvant une autre jurisprudence, un autre argument, ou éventuellement une interprétation d'une circulaire, ou une directive, ou une information dans des éléments précis. Donc tu es obligé de rentrer dans le corpus intellectuel de la partie adverse. Mais ça, c'est pour, on va dire, c'est pour convaincre. C'est pas pour convaincre. On va parler en français. L'inanité du fait que ça, il y a pas de mamachouf, il y a pas de validité de l'argumentaire. Mais c'est pas pour quand par exemple, là, tu as des déviants. C'est ça que tu n'arrives pas à comprendre. Là, tu as des déviants. Donc il est obligé de rentrer dans la déviance.
Voilà.
Et là, c'est dangereux. Oui, ça s'appelle le maral pour pouvoir le faire.
Oui, absolument.
Damale
Hashim Lapikoros.
Ça s'adresse à tout le monde.
Avec Shakod, il mode Torah, mais Damale Hashim Lapikoros. Je reprends ce que dit Jonathan, que la Mishnah nous dit soit extrêmement investi dans l'étude de la Torah et sache quoi répondre aux déviants. Alors là-dessus, on dit ça ne veut pas dire forcément qu'il faut avoir une tribune publique avec lui. Mais il faut rentrer dans ses arguments.
D'un point de vue technique, t'es obligé.
Non, mais là, c'est plus que technique.
Oui.
C'est plus que technique. Parce que l'argument d'autorité est un argument de faiblesse. Là, avant que je vienne, il y a mon fils Neria m'a dit, dis-moi papa, c'est vrai que Mao Tse-Tung a tué 15 800 personnes.
Wow.
15 800 personnes.
Je dis,
il a tué beaucoup plus que ça. Et alors, donc, son grand problème, c'était Mao Tse-Tung. C'est quoi un dictateur? Allez, il m'a dit, mais Napoléon était un petit peu différent, mais c'était pas loin. Hein. Donc son problème, c'est la dictature actuellement. Donc il faut qu'il fasse mieux connaissance avec Raphaël.
C'est intéressant.
Alors en tout cas, quoi qu'il en soit,
non, mais...
9 ans, l'âge de la philosophie politique. En tout cas, quoi qu'il en soit, le c'est vrai que l'argument d'autorité... Apparemment, en général, on a l'impression que c'est un argument de force. Non, c'est un argument de faiblesse. Maintenant, évidemment, chaque chose doit être nuancée. Mais on ne parle pas d'une tribune publique, on parle des arguments, d'analyse intellectuelle des arguments. Ok, on continue. On dit, il ne faut pas que la personne, après une conversation, sente, il ne m'a pas laissé dire ce que j'avais à dire. C'est extraordinaire. Les cas d'avarzé et ferme à Shirojvik, c'est pour ça, c'est le contraire de ce que certaines personnes pensent, qui rejouit qu'à Géen Racha de Daber à la date. Ou Chizouk Adam et Tokem Shelo. Regardez, extrait. Là, c'est vraiment la polémique extraordinaire. Certaines personnes pensent que si on ne laisse pas parler les contradicteurs de la tradition, c'est en vérité un renforcement de la tradition.
Il y a certaines personnes qui pensent que,
si tu veux, c'est la censure. C'est le phénomène de la censure. Par exemple, ça c'est quelque chose de très important. Dans notre tradition, on voit que tu as des gens qui disent, par exemple, moi j'ai des enfants qui sont en Israël, et mon fils Simcha en particulier, il me dit les chansons des chanteurs, des chanteurs pas religieux, Mizrahi.
Forcément, ou même l'Europe.
Qui sont anonymes. La plupart de leurs chansons, c'est des insanités sur la tradition juive. Ah, tiens. Me dit comme ça, moi je vis pas là-bas. Me dit, mais en vérité, dans d'autres cultures, ils se retrouveraient en tôle ou la tête fracassée. En vérité, ça passe. On n'en fait pas tout un fromage dans notre tradition. Les gens qui s'opposent, on n'est pas.
L'ascension, il y en a pas mal quand même.
Comment ?
Il y en a pas mal, l'ascension, dans certains milieux.
Il y a de l'ascension. Oui, c'est vrai. Mais c'est impressionnant de voir que tu as des gens qui se moquent de la tradition en Israël, et les milieux religieux n'en font pas une. On n'en fait pas une croisade, je veux dire.
Sans entrer là dans le sujet, mais on parcourt quand même les Igorot Moshe de Raffenstein, la quantité de Shélot sur les conservatives et les réformés est considérable. Maintenant, mais c'est pas forcément sur leur déote, c'est des Shélot très précises. Est-ce que je peux faire une fête de famille dans le centre communautaire conservatif? Est-ce que ça va donner lieu? Est-ce qu'une femme qui est employée à temps partiel chez les conservatifs peut être employée à temps partiel? C'est des questions pratiques. Mais par contre, il y en a une quantité.
C'est vrai. Bon, mais aux États-Unis, c'est non. Ok. Enzik, car qui elle aime vivre. Mais regardez ici, c'est. Là, je pense que là, il dit le fond. Le fond, et d'ailleurs, c'est la même démarche. On en est à la dernière page, c'est Koufnoun Alef. Hein. Koufnoun Alef. Et c'est la même démarche que Rambam, en vérité, qu'il dit Enzekar, qui est l'aime d'Ibra Mitnagel, Bedat, Enzerak, Bitul, Rouchat, Adat. C'est-à-dire, faire la sourde oreille face aux contestataires de la tradition n'est que l'expression de la faiblesse de notre tradition. Kacher Omrim, Sgor, Piram, Eldaber, tais-toi. Si on dit tais-toi, c'est une attitude de faiblesse. Mais car, vous savez que c'est très connu que les plus grands shiurim des plus grands maîtres des dernières générations, les grands maîtres, prenons par exemple Rav Avrom Gourvitz à Getzed, mon grand gendre dans Benjamin quand il était à Getzed, eh bien il faisait partie de l'équipe dont le jeu était de contredire le Rosh Yeshiva à son cours. Il y a un grand cours hebdomadaire du Rosh Yeshiva, le plus fort de la Yeshiva. Leur sport, c'est trouver les failles et dire les failles au cours du Rosh Yeshiva. Et le Rosh Yeshiva, pendant qu'il parle. Et le Rosh Yeshiva, c'est ce qu'il attend. Et il est connu. Il est connu que Rav Shar Alav Hashalom, Rav Shar qui était le grand rab de Shimon Ponovitch, Rav Shar, ce n'est pas une fois, mais plusieurs fois, il y a des talmidim, des élèves, à ses grands cours, ils lui ont posé une question. Il dit, ok, je ne sais pas répondre, bon, j'arrête mon cours, il m'a cassé mon cours. Allez, on rentre. Je sais pas répondre.
Et ça casse le malach, apparemment.
Ça veut dire, il s'est rendu compte pendant le cours que c'était faible. Il y avait une faiblesse et que l'élève a mis en exergue sa faiblesse. Il dit voilà, j'arrête. Ça, c'est notre tradition. On y va. Le kar harishonim. C'est pour ça les premiers afim nimsa davarma besvarim shu keneged datam loyu amitnagdim dochim davarze. Les premiers, même si on trouvait quelque chose dans des livres qui sont contre leur tradition, loyu amitnagdim dochim davarze. J'ai pas bien compris. Qui a sechel mechayev sheloye minyam zeklal zgor pif sheladam bedavar shu magia la date. Ce n'est pas de notre tradition de fermer la bouche de celui qui conteste notre tradition. Rak pitchega madan tuna la kol. En vérité, la capacité d'aborder notre tradition est ouverte. Et prat a katouf ki a kotev a sefer en kavato rak lilmod. Ven kad davar shiou mekamnim la achiz kede le kanter. Le kar en istom davar razé le vatel. Donc ici, il parle, en vérité, la base, c'est ce qu'on a dit moult fois, la base de ce livre est par rapport à un livre qui a été écrit de son vivant, qui s'appelait le Meira Tenaïm de Rabbi Azaria di Rossi. Il y avait donc un contemporain de quelqu'un qui contestait systématiquement des passages du Talmud. Donc c'est pour ça qu'il a écrit ce livre en répondant de manière systématique aux attaques de Rabbi Azaria de Rossi. Voilà. Donc là, il explique finalement le pourquoi il rentrait dans les arguments d'Azaria de Rossi pour reconstruire toute notre tradition. Donc là, en vérité, il explique le bien fondé de tout ce livre. C'est vrai que parfois, on était un petit peu mal à l'aise le côté polémique de ce livre. Maintenant, il explique le pourquoi et le bien fondé et la méthode et que nous, on doit s'inspirer de ça. Mais l'omatsinu meolam sheyu monim ou mochim bedavar zeklal. On n'a jamais vu dans notre tradition qu'on s'opposait à ceux qui contestaient. Mais loyakan potsepe ou metsapsef. La malotil tunazot at sifra philosophie machia al roi keratam. Bagdou kergashum ramou ki olam kanmo vaya lobria klal. Im kodze em lokrim soarimaem. ולא דחו אותם, רק שקרו ראו כדי להביד על האמן לשמוע טענות שאמרו לפי הדת אשר איתה ולא קיבלו לקנטר. וכאר הם ראו לדרות דברי זולתו המקלו. ז'רופרו, רובוה, כלז אנסיה, כותי פרל דז אנסיה, שתדיר מימונית, מובייטי, סקומנסי אבק רב סעדיה גאון. À l'époque de Rav Saadia Gaon, c'est-à-dire 8e siècle hein, de l'ère commune, Rav Saadia Gaon qui était en Irak, à Babel, il a écrit des livres en arabe, à Emunot Vadeot, des livres pour analyser les contradicteurs des éléments de la foi juive. Et il rapportait leurs arguments, et ces arguments, l'analyse de leurs arguments, c'était pas un simple jeu intellectuel, mais c'était la capacité, la possibilité de construire notre tradition. Et ça, c'est la dimension traditionnelle, il dit. Ça, ce n'est pas conjoncturel, c'est traditionnel. Ça, c'est notre tradition.
Le Kuzari aussi, ce dialogue un peu mis en scène. Bon,
enfin, le Kuzari, c'est moins que ça. Tu as déjà étudié le Kuzari ?
Non.
C'est deux pages. Sur 500 pages, tu as deux pages comme ça. Non, le Kuzari, c'est presque un... Le Kuzari, c'est presque l'autre démarche.
L'opposition nourrit la tradition.
Voilà, voilà, nourrit la tradition.
C'est ce qu'il dit, hein.
C'est ce qui n'est même pas un mal nécessaire, c'est un nécessaire.
Voilà, absolument, ce n'est pas seulement conjoncturel, ce n'est pas seulement une stratégie, c'est essentiel. Voilà, c'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Non. Alors Spinoza, c'est un cas par contre. On termine là, allez. Un peu de sérieux là. Comment ?
Avec les passifs.
Ah.
Non, c'est vrai que.
On peut dire aussi Rabbi Moshe Chaim Mitzvato.
Bon, ok, il va pas résumer. C'est encore pas le Mashiach, c'est pas la fin des temps. Ça se saurait.
C'est-à-dire que c'est pas cette démarche. Il y a un danger dans cette démarche. C'est qu'il y a le peuple derrière qui est plus ou moins.
Non, mais il y a des fois, dans la Torah, il y a des gens qu'on condamne à mort, qu'on exécute. C'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Bon, c'est une démarche générale. Maintenant, il y a des limites. Sur le terrain, parfois, il faut casser la figure à certaines personnes. Les Hashmonaïm, ils ont pris les armes et ils ont buté les Grecs. Y a des Chachamim qui ont dit que lorsqu'il y a eu, à la fin du 19e siècle, dans les communautés, des gens qui ont commencé à contester avec une énorme virulence la tradition, il aurait fallu prendre les armes. Il y a des Chachamim qui ont dit ça. Bon, c'est pas toujours. Okay. Il dit pourquoi il n'y aurait pas cet argument par rapport au livre des philosophes qui sont allés d'après leur analyse. Ils ont nié, ils ont dit que le monde existe de tout temps et qu'il n'y a pas eu de phénomène de création. Néanmoins, les maîtres, comme Maïmonide, ont pris leurs livres, ne les ont pas rejetés en disant « Ah, il ne faut pas écouter ça, etc. » L'Odachotam, Rakshekam ou Raoul, il dit que pour mettre sur place la vérité, il faut écouter les arguments qui sont avec eux. Parce qu'en vérité, ils n'ont pas dit ça pour s'opposer. Regardez, il y a deux attitudes. Il y a des gens qui s'opposent, comme on l'a vu il y a quelques fois. On avait dit qu'il y avait la première, il y avait quatre catégories d'impies. La première catégorie, des gens qui rejettent la tradition pour comment dire, se permettre ce que leur pulsion voulait se permettre. Et pour cela, ils inventent des arguments. Bien. Alors là-dessus, c'est des gens qui s'opposent avec virulence. Mais en vérité, leur opposition n'est pas une opposition intellectuelle. T'as des gens, c'est pas comme ça. Des gens qui ont une analyse intellectuelle des choses. C'est pas pour s'opposer, c'est pas pour se permettre des choses. Ils ont une analyse. Cette analyse est erronée, on peut discuter avec. Le Karen Raoul Hidro Divré Zulatour Migadé. C'est pour ça, ce n'est pas légitime de repousser les paroles de celui qui s'oppose. Avaï Raoul et Karen Otal et Anbet Varav. C'est légitime d'écouter ses dires, analyser ses paroles. Comme nous avons expliqué. Maintenant, quelqu'un écrit un livre. C'est pas quelqu'un qui est. C'est pas un pamphlet. C'est pas un pamphlet. Il écrit pour enseigner aux gens. C'est pour ça. Si c'est comme ça, il faut prendre au sérieux ce qu'il dit. Tu ne peux pas dire, voilà, tais-toi, c'est un livre. Si c'est un livre, ça rentre dans le domaine public. Il y a certains accords, il y a un dame d'aber, un cas, c'est ferme d'aber. Ce n'est pas une personne qui parle, c'est un livre. Mais riyesh la dame, chez moi, chokma, l'ishpo, chamato, alania, veklaf. Est-ce que quelqu'un d'intelligent s'énervera sur du papier ?
Donc, on ne parle pas regardez, n'importe quel avis de la rue, il faut aller se mettre dedans. On parle de quelqu'un qui a pensé.
Quelqu'un qui a pensé, qui a écrit un livre. Alors, tu vas dire, ouais, ce livre...
Pas, c'est pas RMC. Ouais.
Malgré tout, le il semble surgir de ça. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se tromper, ou des gens qui sont malveillants, ou des gens qui veulent se permettre, il y aura toujours. Donc, quel est le rôle du tzadik ou du chacham de venir perdre, entre guillemets, son temps, alors qu'il pourrait écluser des pages et des pages
il semblerait que ce soit pas une perte
alors,
de temps.
Attends,
c'est pas une perte de temps.
Non, mais alors, non. J'imagine que ça...
En vérité, il se construit.
Conjoncturel. Non, j'arrive pas à le comprendre. J'imagine que c'est conjoncturel parce qu'il y a un danger de porosité avec les gens qui vont entendre. Et il y a peut-être un problème de déperdition du judaïsme.
Excusez-moi, je...
Il y a des passages qu'on a étudiés où un des étudiants et en répondant... Non, c'est pas vrai, on a mieux compris le passage.
Le tzadik, il est dans son coin, il prend son livre. Qu'il y ait des gens qui se trompent, ils s'en foutent.
C'est pas vrai. En devant expliquer clairement pourquoi ils se trompent, tu en arrives à mieux comprendre toi-même ce que tu dis. C'est ça ce qu'il dit.
Il a envie de se tromper, un Apicoros. Qu'est-ce qu'il en a à faire de sa vie ? Il s'en fout. Il n'est pas là pour faire du kirou.
Regarde par exemple la Mishnah qui dit le taureau d'un juif qui encorne celui d'un goy, on ne paye pas les dégâts. Non, tu te rappelles de ça ?
Oui.
On a étudié, etc. On est arrivé à la conclusion. En réalité, le dîme que les dégâts de mon animal, je dois les rembourser, c'est déjà un tridouche de la Torah.
Alors, quel rapport ?
Donc, pour nous, c'était évident, on se dit non, en fait, c'est un tridouche de la Torah. Donc, celui qui n'est pas dans la Torah, ça ne s'applique pas à lui. Donc, à travers ça, on a mieux compris déjà que c'est la Torah. À travers ce qui au départ a une réponse à ah, tiens, c'est choquant, on arrive à mieux comprendre même ce que c'est la Torah.
Soit celui qui s'oppose, c'est un marais, il ne connaît rien, donc on lui dit va apprendre.
Non, mais, après, ouais, mais là,
après,
apparemment,
mais là, c'est pensé.
Ouais, là, apparemment, c'est pas le cas. Là, apparemment, c'est quelqu'un qui a pensé.
Alors, c'est un apicoros.
On a l'impression qu'il n'est pas dans cette catégorie-là. Il parle de philosophie, mais on parle de gens qui ont pensé le truc. Apparemment.
Il parle d'un amaret.
C'est comme.
Quel intérêt ?
Non. Il y a des gens qui s'attaquent, au judaïsme par haine. Ouais, par haine. Je sais pas, ils ont des problèmes personnels, etc. Ça,
on peut rien y faire.
Ça, c'est un problème personnel. Laisse tomber. Maintenant, t'en as qui écrivent un livre avec des. Prenons par exemple Shlomo Sand.
Sand.
Shlomo Sand. D'accord ? J'ai entendu parler Shlomo Sand. Il dit qu'il n'y a jamais eu la sortie d'Égypte.
L'invention du peuple juif.
Voilà, que le peuple juif, c'est un faux. Entre parenthèses,
j'ai lu. Religieux, lui. Il était dans les Chibot, il a tourné.
Bon, ok, c'est possible.
Bien sûr.
Mais.
Tu vas y dire quelque chose.
Par exemple, ce que dit Shlomo Sand. Dans le livre, là, le deuxième livre que j'ai écrit, il y a un chapitre qui est une réponse. Je ne le cite pas. Mais j'écris plusieurs articles pour répondre à ces arguments, à ce type d'arguments. Ces questions, c'est vrai qu'il est foireux, etc. Mais ce qu'il dit, c'est dans le domaine public. Tu as des gens... Même si lui, il a un problème personnel, une torture personnelle, je ne sais pas quel est son problème. Mais le fait est, c'est que il y a 10 jours, quelqu'un est venu chez moi, que les livres de Shlomo Sand l'ont perturbé jusqu'au plus profond. Il a fait l'école juive, etc. Il dit maintenant, je ne peux plus croire, parce qu'il y a trop de questions. Alors, Maintenant, le... Alors...
Non, c'est parce qu'il y a un enjeu. Donc c'est pour ça que...
Non,
on
regarde.
Est,
non,
mais il y a des... Non,
ce qui veut, là, ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire, c'est que on te demande pas de discuter avec cette personne sur un plateau de télévision. C'est pas de ça dont il parle. Une fois que la question a été posée et qu'un livre est sorti, tu vas dire, ce livre, il est tamé, il faut le mettre à la poubelle, etc. Bon, tu n'es pas obligé de le lire. Peut-être que toi, ce n'est pas ton problème. Mais quelqu'un qui, au niveau intellectuel, de rentrer là-dedans et qui a une préoccupation de défendre le peuple juif, de construire le peuple juif, des grands maîtres, ils doivent rentrer là-dedans. Des grands maîtres, ce n'est pas tout le monde. C'est pas donc des grands maîtres doivent rentrer là-dedans, réfléchir, et s'ils rejettent cela, c'est une faiblesse. Bien que, instinctivement, on a envie de dire c'est des ch'touillottes, c'est des bêtises, etc. C'est vrai, dire que le peuple juif est un faux, que que les enfants d'Israël n'étaient pas en Égypte, c'est aberrant. Mais écoute ces dires et analyse. Et si tu arrives à construire, c'est vraiment, à la limite, c'est un cadeau qu'il te fait pour construire la tradition. Ça, c'est ce qu'il dit. Et de s'énerver sur des livres montre en vérité ta faiblesse. Quelqu'un, il s'énerve, c'est comme les... C'est pas à l'honneur. C'est pas à l'honneur, comment dire, les versets sataniques, machin. J'ai jamais lu du Salman Rushdie. J'ai jamais lu, en l'occurrence. Mais bon, on sent que c'est pas à l'honneur de rejeter des anathèmes à tire-larigot. C'est pas à l'honneur d'une tradition. C'est une faiblesse. Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire.
Parce qu'après, ça fait partie du dogme.
Voilà.
Et la tradition, c'est pas un dogme.
C'est pas un dogme. Voilà. C'est pas un dogme. Notre tradition, il dit, ça n'a jamais été construit sur un dogme. On continue, c'est très important. Qui colle Gibor, Chotzelit Gaber, Alecha, Laron, Gourato, Urafed, Meot, Choto, Shemakno, It Gaber, Bechol, Asher, Yochal. Alors là, tout puisse, tout balèze, qui veut s'opposer sur quelqu'un pour montrer sa force, il veut, on dit vas-y, tape. Allez, tape. Plus fort. Casse-moi la tête. Là, il montre qu'il est fort. C'est les bénis, dégage, dégage. Ouais, dégage, je dis bon. Et wesh, vas-y. Je veux pas te voir. Alors là, c'est que t'as la trouille. Allez, vas-y, tape. Ouais. Vas-y, tape. Non, viens. D'ailleurs, on voit dans le Sefer Shmuel, pour l'élite qui est là au cours de Sefer Shmuel,
dimanche soir,
ouais, que Yonatan, quand il va s'attaquer aux Philistins, il dit à son écuyer, il dit, regarde, on va leur dire, oh, Philistins, si les Philistins nous disent, venez qu'on vous casse la figure, ouais, c'est qu'ils ont peur. Mais fait rester là, on arrive. Ouais, c'est qu'ils n'ont pas peur. C'est-à-dire, venez, on vous casse la figure. C'est pas tout à fait ça. C'est pas très cohérent,
oui,
ce que tu es en train de dire. C'est pas tout à fait ça. Je m'embrouille un peu les pinceaux, mais c'est quand même le ça veut dire, si ils sont prêts, ils vont dire, ne bougez pas, on arrive, là, c'est un problème. C'est-à-dire, venez, c'est qu'ils ont peur. Voilà. Mais ça veut dire, s'ils affrontent, ils sont prêts à aller à la confrontation, c'est qu'en vérité, ils sont forts. S'ils vont à la confrontation, ils sont forts. C'est comme Arnaud, après l'étude, j'ai un truc à te dire. En général, quand tu dis ça à quelqu'un, il dit non, non, merci.
Ça m'angoisse.
Non, non, ça va, j'ai pas le temps. J'ai un rendez-vous chez le dentiste.
Mais le gars qui te dit oui, oui, on se voit.
À quelle heure ? Ok, c'est bon.
À quelle heure ?
On y va. À bal.
Surtout quand on appelle les donateurs, ça se voit tout de suite.
Bon, les mecs, on termine hein, là. On est. J'ai pas compris. La bourra s'est terminée plus vite que le jus de non, poire, non, hein, non, les mecs. Hein.
On va,
il y a un problème.
On va arranger ça.
Il y a un problème quelque part.
C'est quoi, c'est au coco, ça ?
Ça, c'est chez Acol.
Aval, Magebourra, Marie, Kacher, Otto, Shebaké, Egno, Enrachaï, Enrachaï, la mode à Nafcho, l'Ilchom, Kenegdo. Mais quelle force il y a lorsque celui qui vient contre lui, on ne lui donne pas la possibilité de se battre. Et Vada, Yadon, Shegover, Anavdo, Enadon, Marie, Shumgoura, Kenyachol, Enrachaï, Evel, Ilchom, Egeladon. Le maître, il dit à son esclave, allez, viens! On va faire un match. Alors c'est sûr que là, l'esclave, il va pas mettre KO son maître. Les Karinistom, Alpi, Mishiba, les Daber, les Gavam, Adrabaï, Bosekaz et Atzma. Madame Moussa, Ramrou, Isaher, Minasone, Belev, Kacher, Yashov, Alecha, Marchavot, Aven. Les maîtres de la morale ont dit. Isaher minasone belev, kasher yarchov alecha marshavot aven. Lo kemo amotzi bepe sherol adam lashiv ou le salem alav divrei sfatayim. C'est pire. Celui qui a la haine dans le cœur, qui a des pensées sournoises, c'est pas comme celui qui parle. Celui qui parle, tu peux répondre. וכן בתורה כתיב לא תשנא את אחיך בלבביך אוכיח תוכיח ולא תשא עליו חטא. Dans la Torah c'est écrit, n'aille pas ton frère dans ton cœur, fais-lui des remarques et tu porteras pas de faute. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un qui t'est proche, tu fais quelque chose de pas bien. Garde pas la haine dans ton cœur. Dis-lui pourquoi tu fais ça. Je suis pas d'accord avec ce que tu fais. Si tu dis que t'es pas d'accord avec ce qu'il fait, il peut te répondre. Et si tu gardes la haine dans ton cœur, ça c'est la faute. Et l'autre, c'est ça. Ochéat, ochéat, retamitecha. Vous comprenez le... Non, vous avez rien compris. Je sens là.
Si.
J'ai vu l'encéphalogramme plein.
C'est-à-dire que le reproche là n'est pas moralisateur, mais il est au moins l'autre peut répondre. L'autisseur la prête. C'est-à-dire que la faute, c'est d'avoir la haine dans le cœur et de ne pas permettre qu'un dialogue se.
Allez, au boulot.
Ça va.
Quel parasha?
Chapitre 19, c'est moi. C'est parasha de Kedoshim.
C'est dans Kedoshim, chapitre 19.
C'est à page 700. Verset 17.
Verset Yudzen, verset 17. Oh là, les enfants, ça va le...
Oui.
Ah non, mais là, 700, c'est 7 avec 2 zéros. Hein.
Ouais, c'est bon.
C'est compliqué.
6 mois. Tu ne rayes pas ton frère dans ton cœur.
Alors, c'est écrit Lotisna et Tachicha Bilvavecha. Le verset Yudzaïn. N'aie pas ton frère dans ton cœur. Oréa, Toréa, Retamira. Fais-lui des remontrances. Tu réprimanderas ton prochain et tu ne porteras pas de faute. C'est-à-dire haïr son frère dans son cœur, ça c'est la faute. Mais lui dire, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, ça c'est une mitzvah. Peut-être que tu te trompes. Toi tu dis, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Et il va peut-être t'expliquer. Il y a un dialogue. La faute, c'est quand tu restes, tu es planté avec ton opinion. Voilà, j'haïs. Mais là, ça c'est complètement... Ça, c'est la faute. On y va. L'antista d'Rabbi Lvavira, qui elle l'écha l'isno t'achira bilvavira. Tu n'as pas à craindre ton frère dans ton cœur. Shiocha l'achira la sirma shata rochevala, parce que là, il ne peut pas rétorquer à la haine que tu lui vaux. Ra qui marchavatera lav chassadavara. Si t'as pensé qu'il, si toi tu penses qu'il fait quelque chose de mal, arrêtez. Même un proche, tu sais pas. Les rachamim disent, il y a sept choses que l'homme ne peut pas savoir. C'est qu'est-ce qui est dans le cœur de l'autre. Une des sept choses que l'homme ne peut pas savoir, qu'est-ce qui est dans le cœur de l'autre. Nous toute la journée, on s'imagine qu'est-ce que l'autre y pense. Non, maître 10, tu ne peux pas savoir. Alors demande-lui. Tu vois qu'il fait quelque chose. Si tu ne lui as pas demandé, tu ne peux pas savoir pourquoi il le fait. Sûrement, il fait comme ça. Sûrement. Qu'est-ce qu'il te dit ? Dis-lui. Alors des fois, c'est avec l'agressivité. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Ok, d'accord, je vais t'expliquer. Ne porte pas sur lui de faute. Achia le ral, assir, mais toi, arrête. Achia, tisna, auto, bilba, vecha. Car si tu ne t'exprimes pas, tu ne peux pas enlever de lui la faute. L'autissa la frette, Asher loïcha la sirmito achet, Asher disna otobil barav tosia achoutsa. Si tu ne lui parles pas, il est possible effectivement qu'il y ait une faute, mais cette faute elle reste toujours à l'intérieur, tu ne peux pas la faire bouger. Les rachamim disent que quelqu'un il voit quelqu'un fauter. Il n'intervient pas, c'est considéré comme si lui fautait.
Oui, on disait la vache de Rabbi... Rabbi
Elazar ben Azaria.
Alors, ce n'était pas sa vache, voilà. C'est la vache de...
Imken et maso kavot, si on mâche belev beniglé. Redavar zera ou adraba. Est-ce que faire sortir ce qui est dans son cœur au dévoilé, ce n'est pas du mal. Adraba, au contraire, reyachol hachiv, emlo yotsi mâche belato yemini bokar. Mayor alashiv, renadoua bevadai, kasher lo yaminu bedat, mechouakim eminadat, shenamda achat, levechad bedat, ayumetam, ze lonim sat nunazot et selarishonim. Ça n'a jamais été un problème chez les maîtres premiers de discuter avec les détracteurs. Là, la dava, extraordinaire. Alors, il est sûr que c'est pas. International, c'est pas pour tout le monde, c'est il y a des limites. Klala davar ki davar ze u rachom meol meol yon noel de let asfarim she dabrum medvarim kemo elu. C'est très loin de fermer la porte des livres. She lo dabrum medvarim kemo elu. Les kar rishonim lo nimsa she nimnu davar ze ki davar ze raoui af ki amayan medivrem en kan o kharaklal she nu medavrim esfarim al dat. Je sais pas quoi. Qui Torah Moshe Arucha Meres Midai Laim La Daber Betorah Moshe Asherim Shal Daber Misedai. Rakimu Mayen Bederer Avra Bilvada Sershov Alimkar. Si tu vois, oui, c'est-à-dire, des fois tu as l'impression que quand tu cites des avis contraires, qu'ils les pensent. Par exemple, il y en a beaucoup qui pensent. Maïmonide, c'est un philosophe. C'est pas parce qu'il cite des philosophes que c'est un philosophe. C'est pas
une critique facile contre Maïmoun.
Comment ?
C'est une critique facile qui est utilisée contre Maïmoun.
En général, les gens ne disent pas ça comme critique, forcément.
D'accord, mais c'est pas parce qu'il cite des avis opposés qu'il les pense automatiquement. Rakim, voilà. Il n'est où ça, même quand Luna, Megadol, Vakata, qui remet Emmet à You. Vemel Meretz Titzmar, regardez, extraordinaire. Nos maîtres sont des maîtres de vérité. Et la vérité de la terre germera. Et Tzedek, Mishamin, Ishkaf. la droiture du ciel surplombe. Et que Dieu nous donne la part avec les maîtres. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire? Que c'est la vérité sort de la tête. Ça veut dire, ça veut dire, c'est pas par. Elle germe de la terre. Donne le temps à la vérité d'émerger, de germer, de pousser. La vérité, elle n'est pas affirmée, elle n'est pas plaquée. Car une vérité plaquée n'est pas une vérité. Ce n'est pas de la pensée, c'est une opinion. L'opinion. Or, la vérité prend son temps, en prenant tous les arguments pour pouvoir au contraire sortir. Voilà. Donc ici, il authentifie toute la démarche de son. Alors je vous propose maintenant que nous commencions un nouveau livre du Maharal qui s'appelle le Gvorot Hashem. Alors évidemment, le Maharal a toujours son même style, et c'est pas un livre véritablement polémique. Hein. Oui.
On a passé notre temps à démontrer les arguments. Très féroce.
Il va acheter les livres.
Là, il dit non, en fait, c'est nécessaire.
Il les ramène, les arguments, pour dire
non,
qu'ils sont
nécessaires. Il les fallait pour qu'on avance
dans notre propre tradition. Lui, il dit que c'est pas conjoncturel, mais c'est essentiel. Alors, regardez, le Gvorot Hashem, il y en a qui ont déjà un petit peu touché le Gvorot Hashem. Oui, non, non. Alors, c'est un livre, il le dit dans son introduction, qu'il a écrit sur la fête de Pessah, sur la sortie d'Égypte. À la fin du livre, il y a une analyse, mot par mot, de la Gada de Pessah. Mais je pense pas qu'à Pessah on y sera.
C'est plutôt.
C'était comme à Hanouka.
Voilà. Alors, j'ai un petit peu médité comment l'aborder. Il y a trois introductions. Mais les introductions sont extrêmement conceptuelles et abstraites. Et c'est un dialogue constant avec le guide des égarés. Je vais vous dire, je suggère de les sauter. Alors, pourquoi ? Parce que on n'a pas le niveau. Je vous dis franchement, on n'a pas le niveau. Vous allez vous ennuyer. Je me permets.
Même avec
la boucha.
3 ans sur le Moreni Boukhim pour comprendre l'introduction.
Là, on peut comprendre plein de choses aujourd'hui. On me corrige ton terrier.
Ça veut dire, j'ai l'expérience un petit peu, je pense que ça va buller. Alors, je propose qu'on commence au 3e chapitre, mais pas les 2 premiers chapitres, parce que c'est très théorique. Par contre, lorsque le Maharal aborde les textes eux-mêmes, et nous apprend à lire les textes, alors là, c'est vraiment jubilatoire, comme on dit. Je pense que c'est plus sympa. Hein? Alors.
Gvorot Hashem, Perek Shlishi.
C'est à qui celui-là ?
Je sais pas.
C'est ici ?
C'était marqué dedans.
Gvorot Hashem.
Il y a où ?
Alors, qui veut un livre ? Demandez le programme.
Il est d'ici celui-là ? Il veut savoir d'où ça vient.
Non, attends,
qu'est-ce qu'il y a ?
Il est d'ici celui-là ?
Oui.
T'en as ?
Ok. Alors.
Troisième chapitre.
En l'occurrence, c'est page CAF E.
Si tu dis que tu vas plus de vie,
Bien. Alors, c'est ce qui va être aussi. Il va prendre tout le début du livre de Shemot, verset par verset, en rapportant, comme à son habitude, les Gemarot, les Midrashim, et ensuite il y aura toutes les Makot, et il y aura une analyse extrêmement profonde. Pourquoi tel maca, après tel maca, et machin, et bidule. Ça, c'est magnifique.
Pour lui céder à 4h du matin, il va pouvoir briller, là.
Pour la petite histoire...
Ah oui.
Pour la petite histoire...
Il va frimer.
En 89, quand j'étais à Créteil, on avait fait avec un jeune étudiant qui s'appelle Patrick Abissira, maintenant il est... c'était chez lui, dans le 12e arrondissement, on avait fait plusieurs jours d'études entièrement sur le début de Shemot. C'était en décembre 89. Et à un moment, on était en train d'étudier donc le Gemot Hachem. Et bon, on avait étudié plusieurs heures, on a ouvert la télé, on a vu en direct la fusillade de Ceaușescu.
Oui, je me rappelle, décembre 89, Ceaușescu.
Oui, oui. Décembre 89. Peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas nés à l'époque, là, parmi.
Je me rappelle très bien.
Ouais.
Non, ils avaient fait un procès comme ça, rapide, et il avait fusillé avec sa femme.
Ouais, c'était pas ouais.
Direct, quoi.
Alors, on avait passé plusieurs jours à étudier.
Non, fusillé.
De matin au soir, le début de Shemot avec le Gvorot Hachem.
Pourtant, il avait été assez bon pour les Juifs de son pays. Il avait été assez bon pour les Juifs de son pays, relativement.
Bon, on y va. Alors, Perek Shlishi. Donc, si vous voulez, si peut-être plus tard on sera bien avancé, peut-être, et qu'on aura bien la pêche, peut-être on reviendra sur le début. En un mot, il y a un grand débat avec Maïmonide. Il y a plusieurs points très importants dans les introductions. D'abord sur la prophétie. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est la prophétie? Deuxièmement, Maïmonide dit que les miracles de la sortie d'Égypte étaient déjà inscrits dans la nature du monde. Dans la nature. On ne sortait pas de l'ordre de la nature. Et lui, il s'oppose à ces thèses de la nature. Bon. Pour rentrer dans tout cet univers, pourquoi Maïmonide dit ça?
Dans le Moré Nevochim, il dit ça.
Vous savez, le Moré Nevochim, par exemple, la paracha la semaine dernière, la paracha de Vayera, il dit, Maïmonide, que les Malachim qui viennent visiter Abraham, c'était un rêve prophétique. Il n'y a jamais eu des voyageurs qui sont venus voir Abraham. D'ailleurs, dans le verset, c'est pas mal. Dans le verset, c'est bien, parce que regardez la preuve de Maïmonide, elle est très bien. Là, parce qu'on a le Chumash devant nous.
Il dit ça sur pas mal de.
Parce que quand les Malachim partent,
je peux pas raconter ça à mes enfants, hein, avec la langue à la moutarde et les trois veaux et les trucs qui me font tout le récit.
Tu peux leur dire.
Non, il faut attendre un peu.
Au contraire, il faut les affranchir. J'adore leur dire des trucs. Le prophète va lui dire ça.
Page 86. Bon, une seconde.
Là, c'est 83.
C'est au début. Début de la paracha.
Je vois pas, je crois que...
Moi, c'est le chapitre 10.
80 secondes.
Mais non.
Le verset 11. Voilà. Verset Kavbet.
Là-bas.
Page 86. Verset Kavbet. Vayifnu misham anashim vayelchu sodoma. Ils partirent de là les hommes, ils arrivèrent à Sodome. Et Abraham odenu omar lifnei Hashem. Et Abraham est encore, se tient encore devant Dieu. Donc ça veut dire pendant tout ça, il était toujours devant Dieu. Il n'y a pas eu d'interruption.
Pour Abraham, c'est pas comme Moïse. Il n'avait pas la prophétie autrement que dans les
Comment?
Juste avant Hachem.
Oui. Non, mais si, ça va bien, c'est vrai.
C'est vrai.
Parce que Abraham, c'est pas comme Moshe Rabbeinu. Lui, la prophétie,
il porte les anges et il est encore devant Dieu.
Non, mais avant. au moment où ils partent, Hachem il dit je vais quand même lui dire qu'est-ce que je vais faire à Sdob. Donc on peut imaginer que Abraham Hachem a commencé à parler à Abraham.
Il a commencé, mais on dirait plutôt qu'il était toujours devant Dieu.
Oui, au moment où ils partent, il est
bon, enfin voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des thèses de Rambam qui sont. Il faut rentrer dans tout son univers. Et je crois que je n'ai pas les compétences. Voilà. J'ai pas les compétences. Alors, verset chapitre 6. Bacharu itbara belein pesar leodia masav le baolam lakir et shemo beolamo botzio et amo mimitzre. L'Éternel a choisi la nuit de Pessah pour faire connaître ses actes à tout à chacun dans le monde, pour reconnaître son nom dans le monde quand il a fait sortir son peuple d'Égypte. Et Inyanze Rainu, Shesama, Atora, Yetziat, Mitzrayim, Yesod, Yesodol, Veshoreshakol. Ce sujet-là, nous remarquons que la Torah a fait de la sortie d'Égypte le fondement des fondements et la base de tout. Mitzvah tarbe bishvil ayetzia shal yadam yelenenu yesod azé metzlenu bal yamut. Beaucoup de commandements viennent par rapport à cette sortie d'Égypte pour qu'on ait en face de nos yeux ce grand fondement et que de nous il ne l'oïmot, ça veut dire
il ne flanche pas.
Kimo mitzvot suka shamra Torah. Il y a beaucoup de commandements pour réactualiser, pour raviver en nous ce fondement qui s'appelle la sortie d'Égypte, comme par exemple la souka. Comme dit le verset, le maniedou de Roterem qui besoukot au chaptit ben Israël, beotzi otam et mitzraïm. Vous irez dans les cabanes pour que vos générations sachent que dans des cabanes j'ai placé les enfants d'Israël quand je les ai sortis d'Égypte. Veafa Shabbat, Nemarbo. Et d'ailleurs, le Shabbat, c'est écrit Zacharta qui ved eved aïta ben mitzraïm. Tu feras Shabbat et tu te souviendras que tu étais esclave en Égypte. Vechen a Pessar, Vechag a Matzot, Pessar, la fête des Azim, Bevada, Ezerel, Etzmetzrem, indubitablement, c'est la souvenir de la sortie d'Égypte. Vechen kol yotob, kulam anu, mekadshim, vomri, Ezerel, et tous les jours de fête, nous les sanctifions en disant souvenir de la sortie d'Égypte. Et plus que ça, nous avons l'obligation de mentionner la sortie d'Égypte chaque jour Rabbi Lazar ben Azaria, Rabbi Lazar ben Azaria, jour et nuit. Le jour et la nuit. Chaque jour et chaque nuit. Mais chez Kolze Moré, tout cela nous montre que Yetzia Mitzrayim be'atzmo chutz manisim sha'asa be'yetzia ou yesod ha'emuna shalav nivne akol. Tout cela nous enseigne que la sortie d'Égypte en tant que telle, indépendamment des miracles, c'est-à-dire il y a deux choses. Il y a les miracles et le fait qu'on soit sorti d'Égypte. Cela montre que c'est le fondement de la Emouna sur lequel tout est construit. Quand bien même les miracles et les prodiges innombrables Dieu a fait avec Israël, mais le seul prodige qui est la base, c'est la sortie d'Égypte. Il y a eu plein. Ça veut dire la manne dans le désert, traverser la mer Rouge. Tout ça, c'est très joli. Mais la base, c'est la sortie d'Égypte. La base, c'est la sortie d'Égypte. Mais comment tu vas être qui? Mais si c'est plus que Meloulouba, t'aurais mis. Veaf! Qui le fit à Sagal ben Adam, Katsre à Sechre, Nire, Kiesh Davar, Shejbo, Shinou, Teva, Miminago, Shelolam, Shinire, Ladam, Erouch, Areot, Shou, Yoter, Gadon, Nes, ou Pele, Yetzian, Mitzrayim, Beatzmo, Enokel et Datato. Combien même, selon la compréhension des imbéciles, les miracles paraissent plus important parce qu'on peut les voir. Ce serait plus incroyable que la sortie d'Égypte. Mais ce n'est pas ça ce que la Torah nous dit. Donc ça veut dire qu'il y a eu des prodiges. Des prodiges, des miracles. Souvent les gens considèrent que quelqu'un il dit, regarde, moi je ne crois pas en Dieu parce que je n'ai pas vu les miracles. Et si je voyais des miracles, ben je croirais en Dieu. Ça, c'est pas notre tradition. Ça, c'est pas notre tradition. Vous n'êtes pas sans connaître le 8e chapitre des Halakhot Yesodei Torah, n'est-ce pas?
Presque pas.
Comment? Relisons.
Benjamin.
Comment?
Benjamin.
On aura peut-être l'occasion de voir. Rambam, il dit que les miracles ne sont pas la base de la Emouna. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous étiez à la Sinoche, Shabbat dernier, dis-moi, ouais, j'étais à la Sinoche, dis-moi. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il y a eu à la Sinoche? À la Sinoche, il y avait la naissance d'Itsrak. Embêté. Itsrak. On l'a lu, ensuite on a pris la boutargue, la boucha.
La dafina, voilà, la sieste.
La sieste.
On va pas y passer.
Il y avait un gros problème, c'est est-ce que la sieste va déborder sur Mincha ou non? Ça, c'est le problème majeur. Mais à part ce problème existentiel, tout va bien. En vérité, la naissance d'Itsrak, moi j'ai entendu au nom de Rav Chaim Yaakov Rotenberg, le père du Rav Rotenberg actuel, il disait que les patriarches, il y a trois patriarches, Abraham et Yaakov, ont changé de nom. Abraham, il s'appelait Abraham, et ensuite Abraham. Yaakov, il a transformé, Israël. Le seul dont le nom n'a pas changé, c'est Yitzhak. Pourquoi? Parce que la constante du peuple juif, c'est la rigolade.
Mais il disait ça derrière Beir Fouta
ou du tout. Ah, pas du tout. Ça veut dire que Yitzhak ne pouvait pas exister. Ne pouvait pas. C'est-à-dire que sa mère, elle avait ce qu'on appelle le syndrome de Turner. Ça veut dire qu'on, d'un point de vue, nos maîtres disent, c'est écrit, mais Sarai Akara, elle l'a valade. Sarai est stérile, elle n'a pas d'enfant. Rachid dit, l'Agmara dans Yevamot, dit, Sarai est stérile, elle n'a pas d'enfant. Évidemment, si elle est stérile, elle n'a pas d'enfant. Il faut envoyer un mail à l'auteur. Ouais, pour lui dire moins un Léonas.
Je descends en bas. Voilà.
Donc, c'est pour nous dire, elle était stérile, mais tu as des stérilités qui ne sont pas, physiques, qui ne sont pas physiologiques. Il y a plein de facteurs à la stérilité. Mon père est... Bon, il vit jusqu'à 120 ans, quand il était actif, il était gynécologue obstétricien, donc il a beaucoup travaillé sur la stérilité. Il m'a toujours dit, on a beaucoup discuté là-dessus, il m'a dit, c'est très rare, une stérilité fonctionnelle chez la femme. Non, d'accord, mais au départ, ils ont vécu des années, elle n'avait pas d'enfant, au départ. Nos maîtres disent que fonctionnellement, au niveau de ses organes, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est ça, elle était stérile. Mais par exemple, tu as des gens qui sont stériles, on en connaît, qui n'ont pas d'enfant. Ils adoptent un enfant, l'année d'après, ils ont un gosse. Ou alors, combien j'en connais, ils ont fait des traitements, c'était stérile. Des traitements, ils en ont marre des traitements à la noix, ils arrêtent, bon, finalement, bon, on n'aura pas d'enfant, c'est pas grave. Et l'année d'après, j'ai un enfant. Ça veut dire, ça existe. Mais là, c'était fonctionnel. Elle pouvait pas. Et ça, c'est l'âme Israël. C'est la constante du peuple juif. Nous, on ne peut pas exister. Je vous donne un exemple extrêmement simple. Ma grand-mère maternelle, quand ils sont venus de Pologne, c'était des immigrés, c'était des migrants, hein, comme on dit. Et ils étaient dans la misère totale. Ils étaient en France, mais dans la misère totale. Et quand ma grand-mère, d'abord, elle a perdu deux enfants en bas âge. Quand ils sont arrivés en France, elle a eu deux enfants en bas âge qui sont morts de pauvreté, de trucs, de machin en France. Donc, elle est enceinte. Elle a eu une pneumonie très grave. Elle a failli passer. Les médecins, donc il y a 87 ans, machin, ils ont dit, madame, vous allez y passer. La seule possibilité que vous en sortez, c'est faire un avortement. Ma grand-mère, elle comprenait à peine le français, qu'on ne voulait pas le français. Ouais, avortement, machin, il perd son bébé. Et c'est ma maman. Et ben. Non, ça veut dire.
C'est perso.
Le médecin lui a dit, madame, vous devez avorter, sinon vous allez claquer. Mais c'était une petite juive polonaise, elle ne comprenait pas les médecins, puisqu'elle avorte, puisqu'ils sont fous, ça. Elle a gardé le gosse. Mais ça, bon, ça, c'est des histoires personnelles, mais si on s'interroge. À part ça, ils ont traversé la Shoah et machin, minute, j'en passais des meilleurs.
Ils ne devaient pas vivre.
Toute une famille, toute une branche.
C'est un exemple parmi d'autres. Mais ça veut dire, le Yitzhak Avinu, il ne devait pas vivre. Je me permets de raconter une histoire personnelle, mais c'est ne devait pas vivre. Le peuple juif, il doit pas vivre. Donc, il n'existe que Bénès. C'est ça ce que Maïmonide dit. Que les miracles qu'il y a, c'est parce que c'est ça la dimension de l'âme Israël. L'âme Israël ne fonctionne pas de manière classique. Ça ne fonctionne pas. C'est incroyable. C'est pas possible. C'est ça. Quand elle a eu le bébé, Sarah, quand elle a eu le bébé, ils lui ont dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ouais, amenez-moi les bébés. Elle les a allaités. Il y avait une dondon, là, 90 piges, elle a allaité les bébés. Voilà. Donc les gens disent, mais c'est incroyable, c'est ça, c'est le Hamisret, c'est ça, c'est pour ça, dit Maïmonide, que les Nissim, c'est pas la base de l'Aïmina, c'est la réalité de Hamisret, c'est pas croyable, c'est comme par exemple, moi quand je vais à Mnebrak, je vais dans la rue Mnebrak, à l'heure de la sortie des écoles, tu vois des milliers de gosses qui sortent des écoles de Torah. Merde. avec tout ce qui s'est passé. Il y a toute une ville de gosses qui sortent, qui viennent d'étudier la Torah. Tu dis, mais c'est pas possible. Et c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est. Voilà. Mais c'est pas la base de l'Aïmouna. Par contre, Yetziat Mitzrayim, ça c'est la base de l'Aïmouna. C'est ça ce qu'il va travailler.
Ça, c'est, la base de c'est pas la base de l'Aïmouna parce que c'est encore plus. C'est la réalité, c'est pas le
pape. La Metsiyout. La Metsiyout, c'est pas la base de l'Aïmouna. Ok, on y va. C'est parti, mon kiki. Et si Melouma, et nos quels est qui n'irait mina Torah, il ressort de la Torah chez Sama Yetzem Israïkav Yesod Emunam Narayot Asheranou Memaala. Car la Torah a placé la sortie d'Égypte, la base et le fondement de la Emuna pour les preuves que nous avons dit plus haut. Kitim Saba Torah Berod Varim Zecher Yesod Azir. Car nous trouvons dans la Torah, pour la majorité des sujets, souvenir de la sortie d'Égypte. Vous connaissez ce verset, bon, on va le regarder de rechef. Regardons le pasouk.
C'est au début de Yitro.
Dans Yitro, au début de Yitro.
Baruch Hashem, ma chère Itzi, les Trémiens d'Israël.
Non, bah, je m'arrête trop.
Yisroh.
Ah, c'est pasouk 422, excusez-moi.
C'est le premier pasouk.
C'est le premier verset. Premier verset. Vaishma Yetro, Kohen Midian. C'est bon, Rabbi Isaï ? Vaishma Yetro, Kohen Midian, Chote Moshe. Et Kol Asher Asa Elokim, Le Moshe, l'Israël, Amo, Kiotsi, Hashem, et Israël, Mimitsre. Yétro, le grand homme de Midian, le beau-père de Moshe, a entendu tout ce qu'a fait Hachem à Moïse, à Israël, son peuple, que Hachem a fait sortir Israël d'Égypte. Donc en vérité, la chose principale qui entend qu'Hachem a sorti d'Égypte, Israël d'Égypte.
C'est ce que dit Rashi. Il cite la Mechilta de Rashi.
Non, Rashi dit autre chose, justement.
Mashma.
Rashi,
Mashma ou Bar.
Problème ici.
Non, c'est
Et quoi la chair à ça?
Non, qui aussi Hachem, Zogdoula Al-Kula.
Al-Kula, Mechilta. Avant, il dit c'était l'Aman et le puits et Amalek. Et après, il dit. Et là aussi, le fait de nous avoir fait sortir, c'est.
Oui.
Ouais. Encore plus.
Oui, reprenons, je reprends ce que dit Emmanuel. Les Moshe au Israël. Et quoi la chair à ça? Tout, il a raconté. Il a entendu. Il est trop. Tout ce que Hachem a fait à Moshe Israël, tout ce que, ça veut dire, il y a plusieurs choses, n'est-ce pas? Il n'y a pas qu'une seule chose. Tout ce qu'il a fait, Yiridat Aman, Ubaber, Bamalek, c'est-à-dire le fait qu'il y a eu la descente de l'Aman, le puits dans le désert, la guerre contre Amalek. Mais le verset termine, que Dieu a fait sortir Israël, Zogdoula al-Kulam. Ça, c'est encore plus important que tout. Voilà. Très bien. Kol asher asa Hashem le Moshe Israël, amo ki otsi Hashem et Israël mi Mitzri, melamed. Cela nous enseigne. Sheshokula yetzial Mitzrayim neged kol anisim vagvurot shasa kadosh bo l'Israël. Que équivalent la sortie d'Égypte à l'ensemble de tous les miracles et les puissances que Dieu a fait Israël. Arechem zichonam limra ochichu minakatu ketsa mitzrayim beatzmo shekula keneged kol anisim. Alors, le concept de shakul, Ouais, le concept de Shakul est un concept subtil.
Shakul de Kola Torah Kula.
Voilà. Qu'on voit souvent.
Ça, c'est comme toute la Torah.
Ça avait le même poids.
C'est ça, c'est un poids. Oui, qu'est-ce que ça veut dire, Shakul ?
Une mesure de poids. Un shekel.
Par exemple, une
mesure de poids d'argent.
Cela vaut comme. Par exemple, on dit Tamotoakene get kulam, etc. Oui, entre parenthèses, Rav Shlomo Volbe a écrit un livre, ça s'appelle Mitzvot Ashkulot. Vous connaissez ce livre? Oui. Il a écrit un livre.
Un asset.
Où il a analysé les mitzvot pour lesquels on dit ces mitzvot correspondent à l'ensemble de toutes les autres mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça correspond à l'ensemble. On pourrait dire c'est matriciel, ça veut dire c'est pas une mitzvah parmi les autres mitzvot, mais ça correspond à l'ensemble. C'est comme la matrice de l'ensemble, comme le générateur de l'ensemble.
L'esprit, on pourrait dire.
Donc la sortie d'Égypte est matricielle de l'ensemble de tout ce qui s'est passé, de toute l'histoire du peuple juif. Le reste, c'est une conséquence. Le reste, c'est la concrétisation. C'est l'ensemble, c'est la matrice. Alors, en quoi? C'est le sujet du livre. Entre parenthèses, le même Rav Volbe dit dans le Aleshour. Le Aleshour, c'était des cours qu'il faisait. Que la base de la sortie d'Égypte, c'est le fait en vérité qu'on est libre. Comme on dit à Pessah, on dit Zman Cheroutenu, le moment de notre liberté. Mais le fait, dit Rav Volbe, le fait d'être libre est quelque chose, il dit lui-même, que même dans les milieux de Torah, on ne veut pas entendre. On ne sait pas d'abord qu'est-ce que ça veut dire être libre. Mais c'est, même dans les milieux de Torah, on ne veut pas entendre. Ça nous perturbe.
Oui, bonjour.
J'ai pas bien compris. Qu'est-ce qu'il veut dire?
C'est-à-dire que tu deviens.
Ils veulent pas que tu sois.
L'orthodoxie, par définition, c'est rentrer dans une sorte de une forme de
L'aliénation, vas-y, vas-y,
de rigidité.
D'aliénation.
Oui, mais ce qu'il a l'air de dire à Volbe, c'est que nous-mêmes, on veut être assujettis. On a besoin de.
On se contraint pour se libérer.
Comment ?
On se contraint pour se libérer.
On se contraint pour se libérer. On dirait du Raphaël Eindhoven le matin
sur France Culture.
À 8h30 sur Europa avant la pub pour Intermarché. Là.
Okay.
Excuse-moi.
C'est pas une leçon de Numéra qui dit c'est de la contrainte, c'est la liberté.
Non. C'est une liberté sous contrainte.
De l'alcool.
Non, c'est pas le Maharal, c'est une liberté sous contrainte. Hachem, il a mis le Mont Sinaï sur nous, il a dit si vous l'acceptez, Noé.
On va traduire
sa pensée là.
Oui.
Brillante.
C'est un choix facile.
C'est un choix contraint un peu. C'est un libre choix, mais sous contrainte. Ouais.
Bon, on dit quoi,
c'est ça ce que tu voulais dire?
Non, mais on voit bien que.
Il est crevé.
On voit bien que Hachem se présente, je suis l'éternel, etc. qui est assorti de la maison d'esclavage. Donc le sortir de la maison d'esclavage, c'est le tampon. Maintenant, nous, on ne sait pas bien qu'est-ce que ça veut dire. C'est le sujet du livre, et c'est pour ça, c'est la centralité de la fête de Pessah et de la sortie d'Égypte. Mais ça va tourner autour de ça, néanmoins.
Qu'est-ce que la liberté ?
Qu'est-ce que c'est la liberté? Je vous dis, Rav Volbe, il criait, il est très bien rédigé dans le Aleshour, qu'on dit qu'on est libre. Comment dire, on dit pas qu'on est libre, on est sorti d'Égypte. On dit, Pessah, Zman Cheroutenu, le moment de notre liberté. Il dit que la base
de la réalité d'Am Israël, c'est la liberté. Mais la dimension liberté est quelque chose qu'on oublie, quoi. C'est quelque chose qu'on oublie. Dans notre vie, on n'a pas l'impression qu'on l'est.
Il n'y a pas besoin d'aller voir le monde orthodoxe. Hein, juste quelqu'un qui doit aller travailler tous les jours.
Ben voilà,
la notion de liberté, elle est...
Ouais.
C'est quelque chose de relatif.
Ben non. De quoi il s'agit, ça va être le sujet. Bezrat Hashem. On va essayer d'analyser ça. Hein. Il a fait, c'est un gros livre. On y va. הרי שהם הוכיחו מן הכתוב כי יצא מצרים בעצמו שקולה כנגד כל הניסים. דוק נומטר פרובה דו ורסמם כל הסורטי דאג'יפט אקיוולנט פלוטו מטריסיאל דתו פרודיש. במדרש שוכח טוב דוק סטא מדרש שור תהילים. ויוציא אתכם מכור הברזל מכור ברזל ורסדי. Il vous a fait sortir du creuset de fer. Ça, c'est le verset dans Tehillim. Keshem shazavi pochet yado, venotel azav minakur, car otsi akadosh bochou et Israël mimitzraim. De la même manière que l'orfèvre tend sa main et prend le fer, l'or du creuset dans lequel il met le minerai et le minerai il le met à haute température et il y a l'or qui dégouline du minerai et que l'orfèvre le récupère. Car aussi Akadosh Baruch Hu et Israël mimitzraïm, de la même manière Akadosh Baruch Hu a fait sortir Israël d'Égypte. וכעובר שהוא נתון בתור מהיה של בהמה, comme le fœtus qui est à l'intérieur des entrailles de la bête, והרועה נותן ידו ושומתו, et le berger met sa main à l'intérieur de la matrice de la vache et le ressort. Donc ça veut dire le vétérinaire, entre parenthèses, je vous raconte un peu des histoires personnelles, que je vous disais que mon père était gynéco, mais il a appris à être accoucheur à Limoges pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, ils étaient cachés au plateau des Mille Vaches. Vous savez, qu'est-ce que c'est, le plateau des Mille Vaches ? C'est là-bas, dans la région, dans le Limousin, hein, la Haute-Vienne. Il y avait beaucoup de juifs qui se cachaient là-bas, à Limoges. Ensuite, ils ont fui Limoges, ils sont allés chez les paysans là-bas. Donc, mon père apprenait aussi, il apprenait donc à être accoucheur. Et des fois, on l'appelait chez des paysans pour la paysanne qui allait accoucher. Mais d'abord, il allait mettre bas la vache, et ensuite, il m'a dit...
C'était un élément.
Alors, mais pour comment ils font les vétérinaires, ils mettent la main à l'intérieur de d'ailleurs, par exemple, lorsque il y a un bébé qui est en siège aujourd'hui, ils font une césarienne. Mais l'ancienne école faisait pas des césariennes. Le gynéco, c'est arrivé avec un de mes enfants, met la main à l'intérieur du vagin, de l'utérus, et il renverse le bébé, il le sort.
Voilà. La technique, hein.
Voilà. Il faut y aller.
On a vu passer comme ça.
C'était leur métier. Comment ?
On a vu le geste, on a vu le...
Sois gynéco, mon fils, hein. C'est un beau métier. Hein.
Ce que mon père m'a dit, souvent il m'a dit, c'est un très beau métier. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est.
Il faut donner de son corps. Hein.
Mais ça peut sauver des vies. Hein, c'est... Ok. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est ce qu'il dit. De la même manière que le roé, le berger, il met sa main à l'intérieur des entrailles de la vache, il prend le petit, il le sort. De la même manière, Akadosh Baruch Hu a mis sa main dans l'Égypte et a sorti Israël du sein même de la matrice qui était l'Égypte.
Keubar shunatun betom ayash el behema, comme le fœtus qui y a dans les tripes de l'animal, va roé noten yado, et le berger met la main à l'intérieur, ve shomto, et le fait sortir. Car inasa elokim la kachatlo goib, ainsi Dieu a inasa elokim la kachat, le verset étonnant, inasa elokim.
Anissa, c'est dans une forme interrogative, tu sais, c'est dans, on va être anan.
Oui, mais qu'est-ce que, d'accord.
Anissa elokim la kachat lo goim ikirev goy. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un autre Dieu sorte une nation?
Est-ce qu'il a réussi? Ça veut dire anissa, ça veut dire. Traduisons le verset.
Est-ce qu'un autre Dieu a pu sortir? Ça, c'est un
honnête. Regardons le verset,
non,
allez.
Va être
Anan. Monsieur nous dit.
C'est au début.
Est-il possible? Ouais, c'est ça. C'est cette forme-là, c'est vrai.
Devarim.
Je vais vous trouver.
Page 1023, 1024.
C'est, vers le, c'est au début de Va être Anan.
Page.
Voilà, voilà.
1014.
Voilà, voilà. Où un Dieu n'a-t-il jamais essayé de venir de façon miraculeuse pour lui un peuple du sein d'un autre peuple? 34, 1021.
Lamed Gimel.
Lamed Gimel, ouais.
1021.
Anissa, non. Lamed Dalet. O Anissa Elohim, lavo la kachatlo goy, mikerev goy.
Alors, on y va.
Combien?
Page
1021. O Anissa Elohim, lavo. La karat lo goy mikerev goy bemasot beotot bemofti bemilchama biatrazagam zgonula dam sefarte.
Non, c'est pour dire qu'il ramène une preuve que le fait qu'il nous a sorti d'un autre peuple.
Kadesh Orchaz.
Bon, on va.
Combien t'as
dit? Dangereux, vous, avec le Maroc.
Ok, d'accord, on y va, on, va faire le, on en reparlera. Alors, Anissa Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire, cet embrouille? Est-ce qu'un dieu a essayé, Anissa, de venir prendre un peuple du sein d'un autre peuple? Bemassot. Avec des manières miraculeuses, des signes, des prodiges, des guerres, une main forte, un bras étendu, des grandes terreurs, comme tout ce qu'a fait Hachem en Égypte.
Il ramène ça comme preuve de l'image.
Donc,
du berger avec la
matrice. Goy.
Mikerev Goy.
Mikerev Goy. Voilà. Berou Bazé Amidrash, Nedvarim Gedolim Meot Shayou Bemitzre. Donc ici, de ce verset, le Midrash donne deux exemples. On met le minerai d'or dans un creuset qu'on chauffe. Il y a, donc c'est, ça fait une entité. L'or coule et l'orfèvre récupère l'or. Ou bien le berger qui met sa main dans la matrice et dans le l'utérus de la vache et sort le fœtus. Il dit, nos maîtres, par ce midrash, veulent nous expliquer deux choses très importantes qu'il y a en Égypte. Aïchad, Shamitzrim, Ayoum, Arzikim, et Govrim, Alem, et Chaskat, Ayad, Shelaem, Shelo, Yetsu, Israël, Mirshutam. Premièrement, que les Égyptiens saisissaient fermement Israël avec puissance, que Israël ne sorte pas de leur pouvoir. Deuxièmement, mais atzmav chez Israël shayu betom Mitzrayim keilu ayu mechubarim le Mitzrayim tfelim imaim elaim metziud bifnei atzmo. Deuxièmement, c'est l'essence d'Israël. Israël était eux-mêmes
collés,
comme le fœtus qui est secondaire par rapport à la vache. Ils n'avaient pas d'identité propre, ils étaient comme la vache. Le fœtus ne vit que par sa mère, par la vache.
Oui, mais il est appelé fœtus, il n'est pas appelé vache.
Oui, mais toi par exemple, prenons un exemple. C'est un grand, une grande question. Est-ce que tuer un fœtus, c'est un crime? Est-ce que avorter est un crime?
C'est une grande question, énorme question. Mais, au niveau premier, les commentateurs expliquent l'ego, que comme le fœtus, sa vie est complètement dépendante de sa mère, il n'a pas un statut de chai, de vivant. Un fœtus, évidemment, à partir d'un certain nombre de mois, il commence à bouger dans le ventre de sa mère. Et qu'il donne des coups de pied, des crottes crues, machin, du. Ok. Mais, alors, l'imbécile qui est en nous va dire, il est vivant. Mais, vos isdos, être vivant. C'est quoi être vivant? Être vivant, c'est être indépendant. Avoir une vie autonome. C'est pas forcément bouger.
Un bébé, il est pas autonome sans sa mère, et pourtant c'est un être vivant.
Oui, mais ça veut dire il a c'est vrai. Mais le disons que Dieu nous en préserve. Sa mère est morte en couche, il peut vivre quand même. Il y aura une louve qui viendra, qui lui donnera du lait.
D'accord.
Mais il y a une autonomie. Relative, certes, mais il y a une autonomie. D'après la majorité des décisionnaires, majorité, pas Maïmonide, il ne s'appelle pas Chai, il ne s'appelle pas vivant.
Comment il s'appelle?
Alors, c'est une grande question.
C'est un potentiel, c'est ça?
Une grande question. Mais, ici, l'image est la suivante, qu'Israël n'avait pas d'autonomie, ils étaient secondaires. Regardez, on va peut-être s'arrêter pour le moment là-dessus. Bezrat Hashem, nous continuerons la semaine prochaine. Mais je veux seulement dire un mot que mon maître Arav Abitbol, il dit que tous les peuples veulent toujours se définir de manière grandiose. Ils descendent du dieu Tartampion, de l'orteil de Vishnu, ou je ne sais pas quoi, des dieux fondateurs. Nous, on dit, on était esclaves. On n'avait pas d'identité propre. On était en vérité, on n'avait pas d'identité. Dire qu'on était esclaves en Égypte, c'est ça. On va avoir une fête centrale de l'année. Ouais. La fête centrale de l'année, eh bien, on va dire, on était des balayeurs. Tu sais, fiston, on était des balayeurs. C'est ça ce que ce midrash dit. On n'avait aucune identité. Toi, l'imbécile, il dit oui, mon arrière-grand-père, le Gaon de Vilna, etc. C'est pas ça qu'on dit à nos enfants.
Quand même. Mais on fait,
sauf les Marocains. Ils disent non, on a toujours été des rabbinim depuis toujours. Déjà en Espagne, il y avait des grands rabbinim.
On est 340.
Voilà. J'étais à mon grand-père, qui était.
On va bien évoquer Abraham, Isaac, Jacob.
D'accord, mais on va dire que son père c'était Terah.
Ouais, dans la Haggadah, on le dit.
Il n'y avait rien qui nous obligeait à monter jusqu'à Terah.
Arrête-toi, Abraham.
Il n'y avait rien qui nous obligeait d'aller jusqu'à Terah.
C'est terrible.
Terah. Puis quand tu as la longueur de la soirée, vas-y, reparle jusqu'à Terah. On ne pouvait pas démarrer un peu.
Ah ouais, on aurait pu commencer à
Allez.